Je répète, 229, 31 et 4. Le sujet qui est devant nous, c'est l'action de l'Esprit dans les réunions d'assemblée. Et on pourrait commencer par lire dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, au verset 7. Le verset qui nous servira de plan pour cette journée. Alors je lis dans la nouvelle traduction, comme ça vous pouvez comparer. De Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de sobre bon sens, ou de pondération. Et puis alors maintenant, on peut donc diviser ce sujet en trois parties. Un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de conseil. Et en lisant les chapitres d'un Corinthien qui correspondent à ces trois points. Et ce matin, on pourra voir ensemble un esprit de puissance dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Donc cet après-midi, 1 Corinthiens 13 et 14. Donc 1 Corinthiens 12, verset 4. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit. Il y a diversité de services et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de ce qui est utile. À l'un est donnée par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre encore la foi par le même Esprit. À un autre, des dons de grâce de guérison par le même Esprit. À un autre des opérations de miracles, à un autre la prophétie, à un autre des discernements d'esprit, à un autre encore diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. En effet, de même que le corps est un et qu'il y a un grand nombre de membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, sont un seul corps, ainsi aussi le Christ est aussi le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et en effet, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais d'un grand nombre. Si le pied disait « parce que je ne suis pas main, je ne fais pas partie du corps », est-ce que, à cause de cela, il ne fait pas partie du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne fais pas partie du corps, est-ce que, à cause de cela, elle ne fait pas partie du corps? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oui, où serait l'odorat? Mais, de fait, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? En réalité, les membres sont nombreux, mais le corps est un. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ou bien encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps que nous estimons les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus décemment parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a proposé le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin égal les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, c'est le corps de Christ, et ses membres, chacun en particulier. Et Dieu les a placés dans l'assemblée. En premier lieu, des apôtres. En deuxième lieu, des prophètes. En troisième lieu, des docteurs. Ensuite, des miracles. Ensuite, des dons de grâce, de guérison. Des aptitudes à aider ou à guider. Diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de grâce de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Sur le plan, on a mentionné des questions très pratiques, donc je les lis pour mémoire. Donc sur l'action de l'esprit, comment puis-je comprendre, entre guillemets, que l'esprit me demande de prendre la parole? Deuxième question, sommes-nous tenus par des habitudes, schéma de déroulement, cantique ou passage préféré, formule toute faite, etc. Troisième, parler ou se taire systématiquement? Quelle alternative et comment? Quatrième question, comment encourager un frère timide ou réservé? Cinquième question, qu'est-ce qui peut attrister ou empêcher localement l'action de l'esprit? Sixièmement, comment s'encourager mutuellement dans le service de l'adoration, de la parole, de la prière? Septièmement, l'action de l'esprit est-elle limitée aux frères? Et huitième question, comment cette action se manifestera-t-elle chez nos sœurs? Donc, on a lu ce chapitre 12 d'un Corinthiens. Il faut qu'on garde en mémoire qu'on a ce sujet devant nous de l'action de l'esprit. C'est pas une étude d'un Corinthiens 12, mais on essaye de rechercher dans ce passage qui concerne cet esprit de puissance en particulier. Et j'insiste sur un point qui a été déjà dit tout à l'heure, c'est que on aimerait non seulement traiter ce sujet de l'action de l'esprit, mais on aimerait aussi le vivre aujourd'hui. Et donc, on invite encore une fois tous les frères, même ceux qui, par timidité ou par modestie, se sont mis un peu plus en retrait, on les invite à dire une question, on peut toujours la répéter au micro, ou venir s'avancer s'il y a quelque chose à dire.
Il y a sur la terre deux types de personnes. Celles qui sont en relation avec Dieu, celles qui ne sont pas en relation avec Dieu. Comment peut-on être en relation avec Dieu? Alors il y a une proposition de Dieu pour tous, une invitation de Dieu pour tous les hommes. C'est de venir au Sauveur. Il y a un Sauveur pour tous les hommes, Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix pour cela. Et lorsque nous recevons dans notre cœur, et Dieu sait lire dans notre cœur, ce message, et que nous l'acceptons, eh bien Dieu vient habiter en nous, l'Esprit de Dieu vient là. Dans le chapitre 6 de la première épître aux Corinthiens, nous avons cette expression « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit habite là. » Il faut naître de l'Esprit, ce que le Seigneur Jésus a dû enseigner à un docteur de la loi, et nous trouvons cela dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Ça nous invitait aussi à marcher par l'Esprit, à vivre par l'Esprit. Nous avons véritablement l'identité d'enfant de Dieu, justement, si nous avons cette relation-là. C'est dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Nous nous intéressons aujourd'hui au plus beau livre et à une portion de son contenu. On ne peut pas comprendre les pensées de Dieu autrement que par le secours de l'Esprit. C'est ce que nous trouvons au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur a donné sa vie, parce qu'il a été victorieux, parce qu'il est monté dans la gloire, alors l'Esprit est descendu. Trouvons cela dans le chapitre 7 de l'Évangile selon Jean. Et le Seigneur lui-même, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, explique qu'il va envoyer ce consolateur, l'Esprit. Alors nous nous rendons compte que toutes les choses qui sont utiles pour nous, tout ce qui concerne Dieu lui-même et ses pensées profondes et la richesse de ses pensées pour chacun de nous, nous ne pouvons pas accéder à cela, le comprendre, le vivre sans le secours de l'Esprit. Alors ce qui nous intéresse et ce qui est utile pour nous, c'est que nous entendions ce que Dieu lui-même a donné, d'une part, d'autre part, ce qui doit mouvoir, faire mouvoir la réalisation de cette action de l'Esprit, et ensuite, c'est le chapitre 14, ce sera cet après-midi, alors, comment nous pouvons pratiquement vivre ces choses, chacun et ensemble. Alors, ce matin, dans le chapitre 12, c'est d'une manière plus précise ce que Dieu a donné, comment l'Esprit de Dieu est intervenu pour donner quelque chose qui constitue de tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont la vie, un ensemble qui est appelé le corps de Christ. Et nous allons apprendre là que tout le monde est utile à sa place. Mais nous verrons aussi dans le côté pratique cet après-midi que si quelqu'un reste en deçà de sa mesure ou dépasse sa mesure, c'est préjudiciable pour tous. Donc nous nous soumettons maintenant. Nous allons lire ceci. Chacun va dire ce que le Seigneur lui a donné et nous allons trouver donc les diverses manifestations de l'Esprit et chacun en même temps en écoutant, en lisant, pourra essayer de découvrir ce qu'il a déjà reçu de Dieu, et en même temps, quelle responsabilité il a alors de le mettre en œuvre.
En préambule, je voudrais rebondir sur ce que Jacques vient de nous dire et lire en réalité avec les versets concernant les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit à la conversion et ses exhortations où il est dit marcher par l'Esprit. Si on regarde bien et dans les textes qu'on a lus et qu'on va lire, 12, 13 et 14 d'un Corinthien, il n'est pas spécifiquement parlé de la marche par l'Esprit. Et cela est, me semble très important en introduction. La Bible insiste beaucoup sur le fait que nous soyons exhortés à marcher chacun individuellement, donc conduit par le Saint-Esprit. Mais il ne spécifie pas si c'est lors de réunions, mais il spécifie marcher par l'Esprit. Ça veut dire 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Et il est évident que cela va avoir comme conséquence immédiate, c'est qu'il n'est pas possible de vivre par l'esprit au moment où nous sommes en réunion entre chrétiens, si le reste de la semaine, nous ne laissons pas l'esprit de Dieu gouverner notre vie. Donc la question, ce ne sera pas d'essayer de chercher qu'est-ce que l'esprit veut là. Non, ça voudra dire, est-ce que dans ma vie, rien n'empêche l'action de l'esprit de Dieu en moi? Et à ce moment-là, il n'est plus question de se poser la question s'il faut chercher l'esprit ou la pensée de l'esprit pour nos réunions. Ça, c'est essentiel. Parce qu'à ce moment-là, on va faire une séparation dans nos vies. Il va y avoir la vie, la période de vie où nous sommes en train de lire la Bible, nous sommes avec des amis chrétiens. Et alors, à ce moment-là, on va peut-être attendre une descente de l'Esprit de Dieu dans mon esprit pour faire que des choses puissantes se fassent. Mais non. Non, la Bible dit « marchez par l'Esprit et alors là vous accomplirez, etc. » Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois qu'un peu la clé de notre problème aujourd'hui, si on veut parler de puissance de vie finalement, c'est ça, c'est de poser la question « quelle est ma relation avec le Seigneur Jésus, avec mon Père, avec Dieu mon Père ?» Mais pas au moment où je me trouve là, par exemple, mais chaque jour, quand je me réveille le matin. Et peut-être que ça va nous aider à comprendre pourquoi, et en particulier dans le chapitre 14, où il est parlé de la manière dont on vit des réunions d'assemblée, il n'est pas parlé de l'Esprit de Dieu. Mais beaucoup d'intelligence, on y viendra cet après-midi. Donc voilà peut-être un peu quelque chose pour introduire. La question, c'est pas chercher, je voudrais la pensée, l'esprit, je voudrais faire ceci. Non. L'important, c'est, j'aimerais vivre une relation de communion intime avec mon Dieu, avec mon Père, avec le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, il y aura une libre relation, une découverte de la pensée de Dieu. Vous voyez, quand on vit aujourd'hui, on n'est pas en train de se poser la question, est-ce que mon cœur bat, est-ce que je respire? Mais je vis. Donc le problème, c'est ça, est-ce que je vais avoir, l'esprit va me pousser à ceci ou à cela, c'est pas ça. C'est, vivons avec le Seigneur dans notre relation de tous les jours, et alors, ce que nous allons découvrir aujourd'hui va pouvoir se réaliser pratiquement.
Peut-être, pour continuer dans ce que tu viens de dire, le chapitre 12 des Corinthiens ne nous parle pas de réunion. Elle parle de la vie du corps de Christ. Et la base de ce, peut-être ce qui nous montre, c'est dans ce chapitre-là qu'il est question du corps de Christ, un corps qui vit, chaque membre à sa place. C'est un cours de physiologie et non pas d'anatomie du corps de Christ, il s'agit. Et c'est aussi quelque chose qui nous est dit dès le départ, dans la vie de ce corps, il y a dans chacun le même esprit. Chacun est soumis au même Seigneur, et c'est l'action du même Dieu. Et l'action dans ce corps, la vie dans ce corps, c'est le verset 7, « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. » Mais si peut-être dans les réunions de l'Assemblée, il y a un moment particulier de la vie des enfants de Dieu, la vie du corps de Christ, c'est aussi 7 jours sur 7. Les relations entre les enfants de Dieu, c'est aussi 7 jours sur 7. Chercher le bien, l'utilité, chercher le bien de l'ensemble, c'est aussi 7 jours sur 7. Ce n'est pas simplement ponctuellement à un moment donné. Un peu comme si on rentrait dans un local de réunion, et puis là, c'est une atmosphère où tout d'un coup, ça va nous tomber dessus. C'est pas juste. Il y a une autre chose encore. La vie chrétienne est une vie simple. On cherche parfois des choses très qui sont en dehors de la norme, si on peut dire. Et là, on se trompe. On se trompe complètement. Quand notre corps vit, comme Philippe le disait tout à l'heure, on respire, le cœur bat, c'est naturel, c'est simple. et la vie du corps de Christ, c'est quelque chose qui est simple.
Rappeler un peu ce qui vient à dit Philippe, je crois. On a, pour savoir dans quelle mesure nous sommes conduits vraiment par l'esprit. Je pense que c'est un petit verset que nous pouvons rappeler dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui à qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Le Saint-Esprit, on pourrait dire, ne s'impose pas. Nous pouvons le contrister, l'attrister, même l'éteindre par notre état de cœur. C'est terrible. Mais si nous aimons le Seigneur, et c'est de son amour que notre amour vivra, si donc nous sommes éveillés dans nos cœurs par les vives flammes de son immense charité, nous aimerons le Seigneur tout naturellement par l'Esprit, d'ailleurs, l'Esprit qui est versé dans nos cœurs, qui verse dans nos cœurs l'amour. Mais la conséquence que nous aurons la pensée de Christ, la pensée de Dieu, Dieu se manifestera à nous. C'est là, il n'y a pas besoin de se forcer, simplement penser à l'amour divin, en être rempli, édifié, et le reste viendra tout naturellement.
Le sujet, c'est l'action de l'esprit, c'est dans les réunions d'assemblée. On a dit que la réunion s'adressait à des croyants. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui se pose la question, est-ce que je suis vraiment croyant? Je ne sais pas, je pense qu'on a tous passé par des moments où on se posait la question. Est-ce que c'est justement la première action de l'esprit en nous, c'est cette certitude, c'est un verset de Romains 8, l'esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors ça se commande pas, on le sent. Mais puisque c'est l'esprit qui rend, puisque c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que si, comme on l'a dit, l'action de l'esprit en nous est attristée, eh bien, on ne sait plus où on en est. Alors, on peut faire la démarche inverse. Et si on se pose vraiment la question, est-ce que je suis croyant ou est-ce que je ne le suis pas? Bon, généralement on dit que si on se pose la question, c'est qu'on l'est. Mais c'est probablement qu'il y a l'esprit n'agit pas librement en nous. Et est-ce qu'on peut dire, bon, on l'a dit un peu, je crois qu'il faut peut-être insister, quelles sont les conditions en nous pour que le Saint-Esprit puisse agir et nous donner déjà la joie de la relation avec Dieu et puis après aussi la marche.
La pensée de l'Esprit nous est-il dit dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains est vie et paix. Donc, pas d'agitation particulière ou pas d'inquiétude, mais une manifestation de vie et un témoignage de paix. D'autre part, dans l'Épître aux Galates, nous trouvons des manifestations qui rendent compte du fait que l'Esprit agit. Il y a l'amour, alors c'est dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates, et au verset 22, le fruit de l'Esprit. On trouve d'abord l'amour. Et dans notre lecture, nous avons dès le début mis l'accent, et ça a été répété, sur le fait que l'Esprit est là pour agir ou conduire à agir en vue de l'utilité. Il s'agit toujours de construire, jamais de démolir. Et nous sentons bien que s'il y a cet amour, eh bien, il conduit au désir du bien de l'autre, il conduit au besoin de servir les autres en servant Dieu, et par conséquent, Il n'y a pas d'action déplacée, là. Il y a l'amour, il y a la joie, nous retrouvons la paix, une longue patience, de la bienveillance, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance, quelque chose qui s'impose et qui fait du bien. Quand on sent l'esprit agir, c'est quelque chose qui fait du bien. Alors, peut-être un caractère avec la question que tu poses, Jean, si une action crée du trouble ou gêne. On peut peut-être s'interroger, se demander si vraiment ce qui est exprimé est à sa place ou ne l'est pas, ou ce qui est vécu ou ce qui est montré est à sa place ou ne l'est pas. Vous avez tous sans doute éprouvé ce que j'ai éprouvé de nombreuses fois pour ma part, et toujours avec une grande reconnaissance, que quand un frère, une sœur dans les conversations, donne quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Moi, ça me saisit, ça m'étreint, et ça me fait énormément de bien. Un petit peu comme quand un frère que nous avons connu, je vois Edgar là, je me souviens d'un mercredi soir à Lyon, un frère pose une question au moment de l'étude, puis un silence. Et notre frère André Gibert prend la parole. Et moi, j'ai éprouvé ceci, c'est ça. Voilà quelle est la pensée. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu fait du bien. Il apaise. Il donne quelque chose de fort qui vient de Dieu. Et ça, c'est constructif, c'est utile.
Alors, dans la question que tu nous poses, Jean, il y a l'atmosphère dans laquelle ça se réalise, et Jacques vient de nous en parler tout particulièrement. Il me semble qu'il y a deux versets dans l'Épître aux Éphésiens tout à fait pratiques, lorsqu'il est dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Les deux versets que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens à ce sujet, c'est d'abord au chapitre 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Il nous a demandé comment ça allait marcher, d'être conduit par l'Esprit. Mais là, première affirmation, comment ça ne marche pas? Ça ne marche pas quand il y a parmi nous de l'amertume, du courroux. C'est la suite du passage, hein. Il faudrait peut-être le lire, ce passage plus sage. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute rougerie, injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice, mais soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnant. Hein, donc, une affirmation, comment ça va pas marcher? Chapitre suivant, chapitre 5, verset 18. Ne vous délivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Vous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Encore une fois, une conviction avec laquelle ça ne va pas marcher. C'est livré de vin. Je pense que si quelqu'un est sous, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais prenons le verset aussi dans une application générale, tout ce qui produit une excitation qui trouble nos idées empêchera l'action de l'esprit. Mais alors, ce qui va la favoriser, c'est ce qui est là. Une atmosphère dans laquelle on est tourné vers les choses de Dieu, que ce soit par des cantiques, que ce soit de la reconnaissance dans nos cœurs, que ce soit des relations les uns avec les autres, où on est tourné vers Dieu, vers le bien que Dieu fait, où il y a de la soumission l'un à l'autre, mais une soumission aussi à Christ lui-même, soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors c'est cet accompagnement qui nous aidera certainement à être remplis de l'Esprit. Cela suppose qu'on a réglé d'abord toute question. Si quelqu'un a un péché sur sa conscience, c'est sûr qu'il va être plein de tristesse et bloqué dans sa relation avec Dieu. Alors il faut le confesser. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et alors on repart avec Dieu dans un environnement comme cela. Que Dieu nous aide à le réaliser.
Quand on lit ces passages d'Éphésiens, on retrouve un peu ce qu'on a lu dans Galates quant aux fruits de l'esprit. Il y a une atmosphère d'amour, de paix, de joie. Et si, au contraire, il y a conflit, compétition, dispute, absence de pardon, c'est l'action de la chair, cela. Ou, d'un côté, l'esprit de Dieu agit, ou la chair agit, ou on laisse agir la chair. Dans les trois expressions qui sont par rapport à l'Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est donc Éphésiens 4. On aura, je crois, l'occasion de voir le fait d'éteindre l'Esprit, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, et c'est en rapport avec l'action collective dans les assemblées. Dans l'assemblée, c'est par rapport à la prophétie et à l'enseignement. L'autre expression... Comment ? Elle m'échappe. Il y a contrister l'Esprit de Dieu, attrister c'est ici, et éteindre, vous l'avez cité tout à l'heure. Non, il y a un autre. Oui, alors contrister c'est le peuple de Dieu dans le désert, ils contristèrent l'Esprit, ils allèrent contre l'Esprit, ils sont toujours en train de se rebeller. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous pouvons vivre, un manque de soumission à Dieu et à sa parole.
Le cœur du chrétien, c'est un champ de bataille. Quand on dit en Galates 5, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Donc il y a vraiment un conflit intérieur. Alors pour prendre une image, elle est connue, mais elle est simple. La chair, c'est comme un voleur qui est dans ma maison. Je peux pas empêcher que ce voleur soit dans ma maison, mais je peux l'enfermer dans une pièce. Et voilà. Voilà ce que l'apôtre ici nous propose, c'est de marcher par l'esprit et nous n'accomplirons point la convoitise de la chair. Mais le rôle du Saint-Esprit n'est pas simplement de combattre contre la chair, ce serait un rôle réducteur. C'est un petit peu, pour prendre une autre image, imaginez un menuisier qui est en train de faire un meuble. S'il est toujours en train de nettoyer les copeaux dans son atelier, le meuble n'avance pas. Voilà, le rôle du Saint-Esprit n'est pas simplement de combattre contre la chair. Mais il y a un rôle qui est magnifique, et on peut le lire en Jean 16 et au verset 14. Qui fait suite à tout ce que le Saint-Esprit fait, il est avec nous éternellement, au chapitre 14, il nous enseigne toutes les choses que le Seigneur nous a dites, verset 26, et puis au verset 26 du chapitre 15, il rend témoignage de moi, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, verset 13, il vous conduira dans toute la vérité, et il me semble que le résumé de toutes ces choses-là se trouve au verset 14 de Jean 16. Celui-là me glorifiera. Et quand le Saint-Esprit est là pour glorifier le Seigneur, alors voilà le rôle noble qu'il fait, voilà le beau rôle qu'il a. Et un enseignement qui a tendance à rabaisser la personne du Seigneur, eh bien, c'est pas un enseignement qui est selon l'Esprit, parce que l'enseignement qui au contraire glorifie le Seigneur, lui, eh bien, on peut être sûr qu'il est selon l'Esprit. Voilà un résumé, un beau résumé aussi de l'action de l'Esprit.
Et moi je pense que on a besoin de regarder de près ce qui nous est dit. Vous voyez, on a cité tout à l'heure Galates, le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix. Tout ça, hein. Et ça mériterait d'être réfléchi pour voir où nous en sommes. La longanimité, la bienveillance, la bonté. Il peut y avoir que de la joie, de la paix. paix et de l'unité si ces choses sont manifestées. Au contraire, qu'il n'y ait pas de courroux, d'amertume. C'est tellement simple, tellement moral. C'est ce qu'on peut résumer par l'esprit. Garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'esprit nous unit. C'est ce que dit l'apôtre d'ailleurs au début de l'épître aux Corinthiens. Le Christ est-il divisé? Non, nous avons un chemin, un seul chemin, qui sera un chemin de bénédiction, de joie et d'édification. Si nous faisons par l'esprit mourir les fruits de la chair, nourrir le travail de la chair. Connaissez-vous, c'est pas compliqué tout cela. Les enfants le comprennent. Nous avons conscience qu'il nous faut précisément le secours de cet esprit de puissance qui nous remplit de zèle et de fidélité. C'est une prière continuelle que vous pouvez avoir les uns pour les autres et surtout d'abord pour soi-même.
Peut-être juste une petite chose concernant la question que Jean a posée tout à l'heure, savoir si je suis vraiment l'enfant de Dieu ou... Et c'est vrai que l'Esprit de Dieu nous convainc intérieurement que nous sommes enfants de Dieu. Mais hormis tout ce qu'on vient d'entendre, il peut y avoir quelque chose qui soit difficile, autant dans notre vie collective que personnelle, c'est le poids de la tradition, ou peut-être le poids de l'enseignement qu'on a reçu, et troisièmement, le poids de ce que je ressens moi. Je m'explique. Quand, par exemple, au début, Pierre, Dieu a l'air de lui dire, tu peux manger même des choses impures. Pas question. Moi, j'ai appris que c'était pas comme ça que ça se faisait, et c'est que c'est dans ton livre. Donc, moi, je peux pas. Et il a fallu tout un temps, un travail, pour qu'ils comprennent que, eh bien, quelque chose avait changé, et qu'ils se mettent à le croire. Donc, il peut y avoir une période, même si on est, comme on dit, conduit par le Saint-Esprit, sincère, donc une relation avec Dieu, mais on a une habitude de vivre certaines choses comme ça jusqu'à maintenant. On pense que c'est la pensée de Dieu, puis finalement c'est peut-être tout simplement une tradition dépassée, peut-être. Deuxième chose, il peut y avoir aussi, parce que l'opposition c'est marcher par la chair ou par l'esprit. Bon, on dit c'est simple, mais bon, entre les deux, il y a quand même peut-être tout un tas de réflexions. Exemple. Oui, l'esprit de Dieu me dit, moi j'ai cru au Seigneur Jésus, je suis un enfant de Dieu. Mais, comme je vis, là, je viens de pécher, mais c'est quand même pas possible. Il faudrait que je sois mieux que ça, il va falloir peut-être s'améliorer, il va falloir... Il y a tout un combat qui se fait. Mais c'est pas une question de marcher par l'esprit ou par l'esprit, c'est que il y a une conscience intérieure qui fait que j'ai de la peine à pouvoir intégrer réellement ce texte qui est écrit. Et puis, il peut y avoir aussi un environnement autour de moi qui m'apprend que avec certains péchés, je peux perdre mon salut. Alors, quand on lit la Bible, eh bien, on va peut-être en trouver des versets qui me disent, dans certains cas, interprétés d'une certaine manière, on peut peut-être perdre son salut. Alors, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est vrai que, le fait de vivre une relation avec le Seigneur va nous amener à grandir dans cette connaissance de la pensée de Dieu. Mais si on a besoin les uns des autres, ici, on est dans un environnement où on enseigne des choses qui sont peut-être pas exactement la pensée de Dieu. C'est difficile de s'en dégager. Et voilà, donc on a peut-être ce poids aussi de cet environnement dans lequel on se trouve et qui fait qu'on a peut-être un peu de peine à vivre réellement une vie toute simple. Et ça va amener cette question des relations de la vie dans l'église locale aussi. Peut-être qu'on a une certaine forme de vivre les réunions de l'Assemblée qui fait que si on n'est pas dans ce contexte-là, eh bien, on peut se dire, ça y est, je n'ai pas une action selon l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, c'est sont des choses qui peuvent nous amener à des réflexions, et peut-être justement cette journée d'aujourd'hui va nous aider à dépasser ces difficultés qu'on peut avoir chacun pour soi.
Faut toujours, lorsque nous lisons la parole de Dieu, écouter Dieu nous parler. On ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un autre livre. On ne lit pas la parole de Dieu pour expliquer Dieu en se plaçant au-dessus, comme l'ont fait beaucoup de philosophes. On lit la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu et que Dieu nous parle à nous, créatures. Si quelqu'un, parce que j'ai entendu à propos de ce que vient de dire Philippe, là, tout récemment, un vrai chrétien, qui d'ailleurs est en train d'écrire une étude sur l'évangile selon Matthieu, et me dire que, oui, on peut perdre son salut. Alors, je l'ai invité à lire un certain nombre de passages, et s'il y avait dans la salle ici quelqu'un qui pense encore ceci, je l'invite à lire simplement chapitre 10 de l'Évangile selon Jean en particulier, hein, et de bien entendre cette expression « Personne ne les ravira de ma main ». Mon Père, il les a donnés plus grands que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quand Dieu met son sceau, il y a une appartenance et une appartenance définitive. Et on sent bien ici cette action de l'esprit qui verse la paix. Il peut y avoir du trouble, comme l'a dit tout à l'heure Élie, quelque chose qui ne convient pas devant Dieu dans notre vie. Alors il faut régler la chose avec Dieu, mais Dieu est prêt à la régler tout de suite, et puis le Seigneur Jésus intervient, premier épître de Jean, pour nous y aider. Alors, si nous revenons au texte qui est devant nous, nous constatons que Dieu, notre Créateur, est la source de tout. Il y a donc grâce, diversité de services, mais c'est le Seigneur qui intervient, là, c'est à lui que nous avons affaire. Diversité d'opérations, ce que produit l'Esprit de Dieu dans les siens et parmi les siens, et le même Dieu opère tout et en tous. Alors, quelles sont les manifestations en vue de l'utilité? La parole de sagesse, une parole sage. Ah, il en est question dans la Bible d'une parole sage. Elle apaise. Elle a tout de suite du poids. Nous trouvons des exemples de contestation, y compris dans le livre des Actes. Un homme intervient, parle avec sagesse, immédiatement la tension tombe. Une parole de sagesse. Ça fait du bien, dans la vie de l'assemblée, d'entendre une parole de sagesse. C'est autre chose que ces actions ou ces communications qui font intervenir un doute ou qui amènent quelques troubles. Parole de sagesse. Un autre, la parole de connaissance. Tiens, moi je m'arrête là, j'entends ceci. Alain, une parole de sagesse. Un autre, une parole de connaissance. Je me dis tout de suite, tu entends? Dieu te parle, l'un une chose, l'autre une autre. Il peut d'ailleurs y avoir, s'il s'agit de deux personnes, une inversion, une autre fois le second aura une parole de sagesse et le premier une parole de connaissance, mais ça n'en est pas un qui détient tout. Et puis, la foi, et nous touchons ici du doigt, Philippe a écrit quelque chose un jour là-dessus, cette puissance qui est là pour agir, c'est la foi là qui produit véritablement quelque chose, pas seulement la foi qui sauve. La foi qui sauve, nous la trouvons ailleurs, nous en avons parlé, mais ici, c'est une action par la foi. Et l'esprit conduit ces choses. Enfin, je ne veux pas faire tout défiler là, d'autres vont prendre la parole, mais nous sentons ici tout un ensemble régi par Dieu, par l'esprit de Dieu, qui va, avec ce que nous verrons cet après-midi, quelque chose d'ordonné, de bienfaisant et d'utile. Vous sentez comme moi, je pense en ce moment, que s'il n'y avait que des actions et des comportements utiles dans l'Assemblée, quel soulagement d'un seul coup. Quelque chose qui apaise, qui fait du bien, qui lie, qui renforce les liens, qui approche de Dieu, qui augmente la communion avec le Seigneur et la communion les uns avec les autres. Donc voilà, parole de sagesse, parole de connaissance, foi.
Peut-être encore quelque chose sur la non-perte du salut. La première fois où le Seigneur Jésus nous parle du Saint-Esprit, dans Jean 14, il va quitter les siens, il annonce qu'il va donner un autre consolateur, il va envoyer le Saint-Esprit. Jean 14, verset 16, il l'envoie pour être avec vous éternellement l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Il envoie l'autre consolateur pour être avec vous éternellement. Et ce consolateur, le Saint-Esprit, ne peut venir que dans quelqu'un qui a la vie de Dieu et non pas dans quelqu'un qui ne l'a pas. Et quand le Seigneur donne le Saint-Esprit, c'est pour être avec nous, je répète, éternellement. Comment pourrait-il partir? Et comment pourrait-on à ce moment-là perdre le salut? Un autre passage encore dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, le verset 21, « Celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés, nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. » Et dans ce passage, c'est Dieu qui s'engage. Il nous lie les uns aux autres, il nous a oints, il nous a scellés, il nous a donné les arts de l'Esprit. Quand on verse des arts pour un achat, c'est que le marché est conclu, que l'achat se fera. J'ai reçu le Saint-Esprit parce que ce que Dieu m'a donné, c'est pour l'éternité. La certitude du futur, c'est d'être avec Dieu dans le ciel pour l'éternité. Il a versé les arts. Il a mis son sceau, comme on met un tampon sur un livre. Si vous prenez ma Bible, il y a mon nom écrit, elle est à moi. Et bien dans un sens, pour chacun d'entre nous qui sommes au Seigneur Jésus, Dieu a mis son sceau, nous sommes à lui. Et puis, il nous a oint l'onction dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. Vous avez l'onction de la part du Saint, vous connaissez toutes choses. Par l'action de l'Esprit de Dieu, nous sommes guidés dans les choses de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Dans le passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 12, on peut-être dire, remarquer une chose, c'est que verset 6, ça commence par « Or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. » C'est que la pensée de Dieu dans le corps de Christ, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui agissent et puis d'autres qui sont des spectateurs. Dans le corps de Christ a besoin de chacun de nous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Et puis il y a toute cette liste de choses et ça termine au verset 11 « Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses distribuant à chacun, en particulier comme il lui plaît. » Donc c'est à chacun, celui qui dirige, c'est le Saint-Esprit, et puis c'est pour le bien de l'ensemble. Et c'est pour ça qu'il est écrit, à un, il y a ceci, et à un autre cela, et à un autre cela. Et j'aimerais dire quelque chose encore sur la foi. Parfois on lit mal, le titre dans les titres aux Éphésiens, on lit ceci, que vous avez été sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce qui est le don de Dieu, qui est gratuit, c'est le salut. Et nous saisissons ce salut par le moyen de la foi. La foi n'est pas un don de Dieu qui fait que nous sommes sauvés. Parce que si cela était le cas, les gens qui prétendent « Ah mais moi je n'ai pas reçu la foi, donc je ne peux pas être sauvé » auraient raison. Le passage, c'est « Vous êtes sauvés par la grâce » par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu. Mais ici, il s'agit d'un don de foi. Imaginons une situation dans une assemblée locale. Difficulté, trouble, on ne sait pas où on doit aller, qu'est-ce qui va se passer? On a peur. L'ensemble des amis et des frères et sœurs est dans l'inquiétude. Et puis voilà, il y a une sœur qui a tellement confiance dans le Seigneur, j'ai dit exprès une sœur, une sœur qui a tellement confiance dans le Seigneur qui est absolument certaine que le Seigneur va agir et va délivrer. Et cette foi, cette confiance devient contagieuse. Et cette confiance absolue dans le Seigneur est en aide à l'assemblée qui est en difficulté à ce moment-là. Et ce don de foi, c'est un don, ce don de foi, cette confiance très forte dans le Seigneur, qui est un fruit de l'Esprit, qui est donné par l'Esprit, est en aide en l'ensemble de la communauté, c'est aujourd'hui le corps.
Pensez ce que tu dis là. C'est à cette expression de l'apôtre, chacun est fortifié par la foi qui est dans l'autre, c'est évident. Non, mais je voudrais, tout à l'heure on a parlé de la mise en doute du salut, de ce salut qu'on pourrait perdre. C'est tellement évident et tellement contraire à des quantités de passages de la parole qu'on est effrayé de voir comment le diable insinue le doute dans les esprits. Nous avons connu à Bordeaux deux couples très très pieux qui ont suivi l'assemblée pendant quelques années, que nous avons reçues et avec qui on était heureux de converser, qui étaient d'une grande rigueur morale, et combien on aurait été heureux de les accueillir. Et puis impossible de leur sortir de l'esprit ce fait que on ne puisse pas perdre son salut. Il pensait qu'on pouvait perdre son salut. C'est une insinuation du diable. Et soyons reconnaissants de ce que le Seigneur nous a, et que la parole de Dieu nous montre, non seulement que nous avons à savoir, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et cette vie est éternelle, effectivement. À propos de la sagesse, on a parlé de l'esprit de sagesse, non? Ça me faisait penser à cette délivrance de la vie, vous voyez, dans l'Ecclésiaste, un homme pauvre et sage délivra la ville par sa sagesse. Une sagesse qui est manifestée dans une assemblée, c'est un grand secours, une grande richesse. Quand c'est vraiment la sagesse d'en haut, dont nous connaissons les caractères, il suffit de lire Jacques, chapitre 3. Cette sagesse d'en haut, qui est celle de l'esprit, eh bien, elle est pure, modérée, paisible, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits. Si vraiment cette sagesse qui vient de l'esprit se trouve parmi nous, nous serons vraiment bénis et nous serons vraiment délivrés.
Dit en introduction ce matin, avec le passage de Timothée, que c'était un esprit de puissance. On est facilement arrêté par nos difficultés et nos faiblesses. Quand nous lisons ces passages, il y a de quoi être convaincu de la puissance du Saint-Esprit. Dieu a un peuple sur cette terre, on pourrait dire aussi une armée. Et dans cette armée, chacun a reçu l'équipement nécessaire, et ça fonctionne. C'est ce qui est dit dans ces versets. Hein. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Verset 7, on a déjà insisté dessus, et verset 11, le même Esprit opère toutes ces choses. Quand vous voyez comment, par exemple, dans une armée, je parle sous contrôle, hein, dans une armée, il faut développer d'énergie pour que chacun soit équipé. Il ne faudrait pas qu'il manque un parachute, ça serait une catastrophe.
Il faut aussi que sur le terrain, chacun reçoive les ordres, reçoive la ration, pour que tout ça fonctionne. On développe une énergie, de toute manière, une idée, une action, pour y arriver à peu près. Dieu nous dit dans l'Église, ça marche. Et c'est l'Esprit qui produit cela. Alors, est-ce qu'on n'a pas envie de rendre grâce, de savoir que dans chaque assemblée, dans chacun d'entre nous, il y a ce cadeau de Dieu, le don de grâce, qui est là, qui a été distribué, et il n'y a pas eu un oubli. Hein? Quand la poste passe, il y a quelquefois une lettre qui manque. Pardon. Mais quand le Saint-Esprit donne, il n'y a aucune erreur. Chacun, tu as reçu, chaque sœur, chaque frère. Et puis, Dieu veille à ce qu'il a donné. Alors, il y a une responsabilité personnelle. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, verset 10, il nous est dit qu'on a reçu des dons de grâce, alors répandons cette grâce, agissons. Mais dans le verset, dans le passage qui est devant nous aujourd'hui, Dieu veut l'opérer par son esprit, il agit. Alors, soyons persuadés de ces choses. Redressons la tête. Faisons confiance avec foi à Dieu qui agit par son esprit pour que ces choses, et qui fait en sorte que ces choses soient vraies parmi les siens.
Enfin, comment savoir ma part de don du Seigneur pour pouvoir manifester utilement? Ça, c'est toute la question que je me posais depuis le début. Alors, vous avez commencé à y répondre. J'aimerais bien que vous le poursuiviez pour permettre de... Oui.
Alors, on me donne la parole, j'ai l'impression.
Pour répondre à cette question-là, parce que c'est la question qu'on a posée. Comment puis-je comprendre que l'Esprit me demande de prendre la parole? Comment puis-je le comprendre? C'est ça un peu la question, hein? Oui, avec Antoine. Quel est le don et comment puis-je comprendre que c'est l'Esprit qui me pousse? Alors là, c'est important. Je me souviens, à l'école du dimanche, un garçon, puis un jeune homme, m'avait demandé « Comment sait-on qu'on est converti ?» Comment le sait-on ? Je lui ai répondu « Mais il ne faut pas t'attendre à avoir des grandes sensations surnaturelles comme cela se trouve dans certains milieux où on a des manifestations fortes qui... Et nettement qui dépasse les choses. Je dis, c'est simplement que Dieu parle et tu crois ce que Dieu dit, et c'est la vérité, et cela est vrai aussi pour toute manifestation, comprendre que nous avons un don, comprendre que l'Esprit agit parmi nous, ce ne sont pas des sensations, nous pouvons nous tromper beaucoup, c'est quelque chose qui est une conviction profonde, qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Il n'y a pas de raisonnement pour cela. C'est, comme on l'a dit au début, le fruit d'une relation permanente, quotidienne avec le Seigneur. Enfin, voilà ce que j'avais à cœur de dire pour cette question.
Alors, frère, puisque vous m'avez posé la question, je ne sais pas si je saurais y répondre, mais il me semble qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est peut-être un peu subjectif, où Dieu nous conduit dans une direction. Par exemple, il me donne envie de prier pour les malades. Et puis, en priant, un jour, Dieu me dit, « Tiens, là, il y en a un, ce serait bien si tu faisais une visite. » Dieu nous engage petit à petit. Quelqu'un qui est un alpiniste et qui va faire de la montagne, il sent ça comme un besoin. Et Dieu nous conduit, produit quelque chose, un désir de servir. Et c'est un aspect un peu subjectif où nous avons besoin d'être dirigés, gardés par la prière,
par la lecture de la parole et par l'action de Dieu. Il me semble qu'il y a alors un aspect plus concret aussi. Quand Dieu opère, c'est en vue de l'utilité. J'ai envie de prêcher la parole, par exemple. Et puis je me lève, et manifestement tout le monde dort. Est-ce que Dieu m'a donné un don pour faire dormir les gens? Je pense pas. L'utilité, c'est quand même l'encouragement, l'édification. J'ai envie d'aller faire des visites, et puis on me claque la porte au nez parce que je suis vraiment casse-pied. Non, ça va pas. Il faut être simple devant Dieu et voir si Dieu produit des fruits dans sa grâce. Je sais bien que c'est pas que les fruits qui nous conduisent. Je sais bien qu'un évangéliste a besoin de beaucoup de persévérance. Je sais bien que Satan peut nous montrer ce qui va pas. Mais quand même, devant Dieu, essayez quand même de voir ce dans quoi Dieu travaille. Dieu veut travailler par son esprit et permet que ça se passe quand nous sommes présents. Et je pense que sur ce point-là, nos frères, nos sœurs peuvent nous aider. S'il y en a un qui, quand il parle, tout le monde s'endort, s'il ne s'en rend pas compte lui-même, peut-être que je vais aller lui dire. Hein. On est des aides les uns pour les autres. Alors excusez-moi d'être concret, peut-être que d'autres ont des versets plus précis à donner, mais voilà comment je ressens les choses, frère.
Il me semble, je suis sûr qu'Antoine le connaît, parce qu'il connaît tellement bien la parole de Dieu, mais un verset qui est dans le livre des Hébreux, la fin de l'Épître aux Hébreux, qui me semble montre bien, était bien ce qui vient d'être dit, Hébreux chapitre 13, verset 18, je me souviens d'ailleurs que vous, Élie et Jean-Luc, vous l'avez cité une fois avant d'aller en Afrique. Et j'ai eu ce même verset sur le cœur aussi en revenant. Priez pour nous, car nous croyons, la note dit, nous sommes persuadés, que nous avons une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Donc c'est tout à fait subjectif, mais le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos limites, il regarde dans le cœur, et lui permettra que ce que l'on fait pour lui dans toute notre subjectivité, donc avec une marge d'erreur forte, que ce que l'on fait pour lui sera bon pour lui. Ça, c'est l'aspect subjectif. Et le deuxième aspect dont tu as parlé, lui, je crois que c'est aussi dedans, prier pour nous, on s'adresse aux autres, on a besoin des autres pour vérifier qu'on est bien dans la ligne de conduite que le Seigneur nous propose. Et on le verra, si j'ai bien compris, dans le chapitre 14, quand il est question des prophètes, que les autres jugent. Si donc mes frères ou mes sœurs désapprouvent ce que je fais, alors je ne veux pas citer le nom, mais je pense que certains devraient bien comprendre ce que l'on veut dire ici. Si des frères ou des sœurs désapprouvent fortement ce que je fais, je dois me remettre en cause et ne pas continuer à interpréter de par moi-même ma position ou mes revendications ou ce qui me plaît.
Je cite ce que nous avons dans le chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens, là, quand l'apôtre Paul dit, malheur à moi, verset 16, si je n'évangélise pas. Voilà, c'est quelque chose qui s'impose à lui. Hein, verset 16, c'est ça, malheur à moi si je n'évangélise pas. Voilà, c'est une nécessité qui m'est imposée. Alors, on entend quelquefois quelqu'un même déplacé dans ses actions qui disent, mais moi, je dois faire ça, le Seigneur. Bon, alors, il y a le test dont on a parlé, et il y a ce test justement pour Paul évangéliste. Par exemple, dans le chapitre 11 du livre des Actes, il s'est passé quelque chose en un lieu, à l'occasion de ce qu'Étienne avait connu, les chrétiens se sont déplacés et ils sont arrivés dans un lieu où ils ont vu que la grâce de Dieu avait travaillé. Alors, on a besoin de Paul parce qu'on connaît justement son don d'évangéliste Et on sait qu'il est doué pour ça, et que le Seigneur l'envoie pour évangéliser, alors on va le chercher. Et il vient, et même, il enseigne dans l'assemblée. Donc voilà, on écoute les autres, s'il y a une manifestation générale, bien on se tait. Mais vous n'éprouvez pas, vous, le besoin de faire ce test? Moi, j'écoute les autres, j'ai besoin d'écouter les autres, et même mon épouse. Hein? Et, oui, parce que on en a besoin des épouses et des sœurs. Hein? Quand une sœur vient dire, mais enfin, tu te rends pas compte que tu es déplacé ici? Bon, ben, c'est quand même à écouter, ça. Alors, il faut faire ce test. On sent qu'on a quelque chose à dire, on en éprouve le besoin, on l'exprime, mais on regarde effectivement si les autres dorment, ben, il faut s'asseoir, il y en a un autre qui aura quelque chose à dire, et qui va les tenir éveillés parce que ça va les intéresser. Hein? Et puis, si on vit quelque chose avec le Seigneur, eh bien, on a besoin de voir, si on fait des visites, par exemple, est-ce qu'on est attendu? Alors, quand on vous rappelle et qu'on dit, on vous a pas vu depuis tant de temps, quand est-ce que vous venez? Bon, ben, effectivement, il y a un service là, on a quelque chose à faire. Besoin de consoler, il y a quelqu'un qui est triste et qui appelle et qui dit, hein, ah, il y a longtemps qu'on vous a pas vu, voilà ce qu'on éprouve. Ah, si vous pouviez venir, ça nous ferait du bien. Bon, voilà, des indications, on a besoin de ces choses-là. Mais quand on n'a rien de tout ça, on peut se poser des questions. Il y a qu'une solution, c'est de se mettre à genoux, d'en parler au Seigneur, et puis de refaire le test. Mais ce fut-il, ça? Et dans notre chapitre, justement, on voit une action d'ensemble qui va dans le même sens. Il s'agit de manifester l'unité d'un seul esprit. Et alors, nous avons ensuite le déroulement de l'utilité de chacun, tout le monde à sa place, y compris celui ou celle qui peut dire à l'autre, mais là, ça n'est pas ta place. Donc, respectons ce qui est dans ce chapitre-là, connaissons que chacun a reçu quelque chose, on l'a répété, et qu'il faut absolument écouter les autres.
On peut être aussi un encouragement pour l'autre à prendre part, à prendre de l'action. Et ça peut être aussi en gardant le silence pour que l'autre se sente exercé. Ça peut être aussi en encourageant, et je me rappelle toujours ce que disait Corneille Bruns quand il avait pris de l'action pour la première fois. Il se trémoussait un petit peu sur son siège et naturellement, son père l'a compris et l'a laissé passer parce qu'il devait sortir du banc pour prendre la parole. Donc, pensons bien qu'on peut être un encouragement en gardant le silence pour laisser l'autre s'exprimer ou en lui manifestant qu'on a compris qu'il voulait exprimer quelque chose.
Réflexion face à la question. Donc, comme on vient de le dire, il y a une conviction qu'on doit tous avoir, c'est qu'on a tous une compétence pour être utile à d'autres, puisqu'il est dit chacun. Donc, à partir du moment où on est un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne une compétence, ce que j'appelle le don de grâce, pour l'utilité, pour le bien des autres. Deuxièmement, nous devons avoir la conviction, y croire, puisque c'est écrit, que nous avons un domaine dans lequel la compétence va pouvoir s'exercer, le service. Hein, quand il est du service, c'est même Seigneur. Et troisièmement, il faut avoir la conviction et croire que nous avons une énergie, l'opération, une possibilité que ma compétence dans la sphère dans laquelle je l'exerce va avoir un impact pour produire la vie, hein, pour ranimer la vie, parce que c'est ça, hein, l'utilité, hein, c'est une question de vie. La deuxième chose, peut-être que le danger de se poser la question, c'est pas une mauvaise question, hein, c'est pas ce que je veux dire. Poser la question, est-ce que j'ai un don, quel est mon don, ça peut tout stopper. La vie, c'est stopper. Parce que tant que je l'ai pas découvert, eh ben, j'attends de le découvrir. Donc, j'arrête toute vie chrétienne, en quelque sorte. Puisque là, il ne s'agit pas, on a bien compris, des réunions d'assemblée, il s'agit de la vie du corps de Christ, donc des chrétiens. Donc là, la difficulté, c'est peut-être ça. Hein, de se dire, est-ce que j'ai un don ou ceci? Donc tant que je ne sais pas, ben, j'attends de savoir. Donc on peut attendre toute sa vie. Donc on n'aura rien fait toute sa vie. Mais là, quel est le problème? Hein, c'est, Seigneur, est-ce que je suis prêt à te consacrer ma vie? Voilà. Alors ça, si vraiment on est dans cet état d'esprit profondément, alors oui, là il va y avoir quelque chose à faire. Deuxièmement, est-ce que j'aime vraiment le peuple de Dieu? Est-ce que j'aime vraiment les chrétiens? Alors oui, il y a un endroit où on va pouvoir exercer justement cette compétence de Dieu. Je ne connais pas cette compétence, mais j'offre ma vie à Dieu, au Seigneur, et j'aime le peuple de Dieu. Alors là, il y a de quoi faire. Et un peu, c'est peut-être que mon image sera peut-être pas très bonne, mais un étudiant en médecine, quand il démarre, il a peut-être des idées sur ce qu'il voudrait faire comme spécialité. Mais en réalité, au fil des services dans lesquels il se trouve, eh ben, il va avoir des choses qu'il aime faire et où il est plus compétent que d'autres, et petit à petit, eh bien, il va se retrouver pédiatre, c'est pas tout à fait comme ça maintenant, mais imaginons que ce soit comme ça. Il va se retrouver cardiologue, parce que c'est ça qui l'intéresse, etc. Puis d'un coup, il est cardiologue. Mais il s'est pas assis pendant 4 ou 5 ans en disant, mais est-ce que je vais être cardiologue, est-ce que je vais être pédiatre, etc. Petit à petit, en servant, donc en accomplissant progressivement ce qu'il sait faire, il va arriver à une compétence, peut-être plus dans un domaine que dans un autre. Donc on parlait de visite tout à l'heure, peut-être quelqu'un pour prêcher la parole de Dieu. On comprend bien que quelqu'un qui connaît bien la Bible, et quand il explique la Bible, personne ne comprend ce qu'il dit, il connaît bien la Bible, il pourrait être utile peut-être dans des contacts personnels, mais ce n'est pas un docteur, c'est pas quelqu'un qui enseigne. Hein, ben voilà, mais il sait très bien qu'il ne sait pas parler. C'est un problème, ça. Hein, mais il sera bon ailleurs. Voilà, donc c'est peut-être la chose importante. Et là, ce qu'on trouve ici dans tout ce texte, c'est qu'il y a une diversité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Chacun sa place. Hein, et dans tous les domaines. Donc, une journée, c'est trop court pour pouvoir justement être au service du Seigneur et pouvoir justement le servir et servir les frères et sœurs. Et c'est ça justement la beauté, c'est que si nous avons une compétence, eh bien cette compétence, ça va être pour le bien de tous les croyants. Alors c'est ça. Donc le don, c'est pas est-ce que j'ai ce don, est-ce que je le fais bien, etc. Ça, c'est être occupé de soi. Mais justement, on est dans un domaine là où on s'occupe plus de soi, sinon des autres, et offrir finalement sa vie aux autres. Et c'est, je crois que c'est comme ça qu'on peut être compétent.
Alors, un autre point dans l'exercice du don, c'est qu'on a tendance quelquefois à mépriser son don. Si on doit passer au chapitre 13 à midi, il faut dire quelque chose de la suite du passage. On peut mépriser son don de différentes manières. Hein. Par exemple, c'est l'histoire du pied qui dit qu'il n'est pas une main. Vous savez faire beaucoup de choses avec les mains. Hein. C'est tellement délicat. Ce que fait un chirurgien, par exemple. Le pied, alors là. Oui, mais pour venir ce matin, si vous n'aviez pas eu vos pieds, et dans la vie collective, c'est pareil. On a besoin de gens qui savent mettre un pied devant l'autre et recommencer, avancer avec foi et avec persévérance, et ça nous aide et ça nous encourage tous. Et Dieu affirme, verset 22, que les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Il y a dans ton corps des membres, hein, des organes que tu n'as jamais vus et sans lesquels tu pourrais pas vivre. Et dans la vie d'assemblée, c'est pareil. Peut-être qu'on remarque davantage ce matin les frères qui ouvrent la bouche. Mais la qualité de la réunion de ce matin, elle dépend d'abord de ceux qui, depuis le début de la réunion et même avant, prient pour que la réunion soit bonne. Et même s'ils n'ont pas ouvert la bouche, la qualité d'une réunion dépend des exercices dans les cœurs, beaucoup plus de ce que va dire un tel ou un tel. C'est l'esprit qui va agir, et ça ne sera pas la parole d'un tel ou d'un tel. Alors, pour ouvrir la bouche, gardons notre exercice, mais nous sommes tous concernés, même ceux qui ne se voient pas là, celui qui s'est assis au fond. On a besoin de ses prières pour que ce matin, il y ait de l'édification. On a lu au début que c'est Dieu qui opère. S'il y a des fruits à la suite d'un service, c'est Dieu qui agit. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et
Si on travaille un jour, ça n'a aucune valeur si Dieu n'agit pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu agisse. Alors il va utiliser l'un ou l'autre. Il n'y a pas, il y a une diversité, il n'y a pas d'indépendance. Quand quelqu'un dit, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, il n'y a pas d'indépendance. Et l'ensemble vit dans l'harmonie, le bien produit par l'ensemble, par chaque partie du corps sur l'ensemble. Peut-être encore, quant au don, quel est mon don? On a déjà beaucoup parlé, mais je crois que le don se vit. Nous ne sommes pas exhortés dans la parole de Dieu à réfléchir sur quel est notre don. Par contre, on a lu et on lira encore que nous sommes exhortés à demander un don pour le bien de l'ensemble. Prier pour avoir un don. Non pas prier pour avoir un don, pour être assis au premier rang et un micro dans la main, mais un don pour l'ensemble, pour servir. On a parlé tout à l'heure de l'amour. Le Seigneur Jésus, dans l'épître de Jean, il a dit, en ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous devons laisser nos vies pour les frères. Laisser sa vie pour les frères et sœurs, ce n'est pas mourir sur la croix pour eux. C'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Mais laisser sa vie pour les autres, c'est accepter d'être dérangé dans sa vie pour servir. Et c'est accepter d'être soumis au Seigneur, pour être guidé par lui, pour servir les autres. Un don de l'esprit, quel qu'il soit, est donné en vue de l'utilité. Et si je désire un don pour moi-même, je me trompe complètement. Et si je désire un don pour servir, le Seigneur répondra. Quand Paul s'est converti, la première chose qu'il va dire au Seigneur, c'est « Que dois-je faire, Seigneur ?» Il s'est mis au service. Et le Seigneur lui a répondu. Mais pour sa vie à lui, Paul, ça n'a pas été le grand confort.
Juste vous proposer de lire ensemble quelque chose dans l'Évangile selon Luc. Jean-Luc vient beaucoup de parler de service. Tout à l'heure, Philippe l'a fait aussi. Puis Philippe, tu as parlé d'état d'esprit. Je crois qu'on a un passage intéressant dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 24, on n'ira peut-être pas tout, mais pour montrer l'état d'esprit et le service. Il arriva, donc Luc 22, verset 24, il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand, et il leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs, mais il n'en sera pas ainsi de vous. Et je saute à la fin du verset 27, le Seigneur qui se donne comme exemple, « Or moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » L'état d'esprit, non pas revendiquer un don, une capacité pour l'imposer aux autres, c'est ça dominer, c'est ce qui se fait dans le monde. Le Seigneur veut nous mettre à l'abri de cela. Non, si j'ai reçu une capacité, la mettre au service des autres. Comme celui qui sert pour le bien de l'autre. Comme disait Jacques tout à l'heure, c'est une manifestation concrète de l'amour de tous les jours. Rechercher le bien de l'autre, le bien de mon frère et de ma sœur, sans lui imposer.
On parle de don, de capacité. Et peut-être le souci de quelques-uns, c'est de faire des complexes et de se dire moi j'ai vraiment pas un don extraordinaire ou une capacité qui se détache et j'aimerais dire à ceux qui peut-être pensent un petit peu ça et peut-être un petit peu nous, chacun d'entre nous, que Dieu n'utilise pas des personnalités extraordinaires mais des personnes ordinaires comme vous et moi. Et que, on l'a dit, il utilise souvent nos capacités naturelles. Des fois, il les transforme. Il a fallu que Moïse désapprenne ce qu'il avait appris. Mais souvent, il se sert de ce qu'on a. Et c'est pas parce que je n'ai pas une capacité intellectuelle hors norme, je n'ai pas fait des études poussées, je n'ai pas des moyens financiers conséquents, que le Seigneur ne va pas m'utiliser. C'est peut-être tout simple. Mais vous rappelez-vous ce petit garçon? 5 pains, 2 poissons. Combien de personnes ont été nourries? 5 000. Un rapport de 1 pour 1 000. Alors, j'ai envie de dire, donne, ça t'est déjà dit plusieurs fois, mais donne le peu que tu as, et Dieu fera fructifier. Pas besoin de grandir pour devenir quelqu'un de très puissant, de très important, mais donne ce que le Seigneur t'a confié. Peut-être pas grand-chose. Et justement, je pense que c'est ça qui sera un encouragement. Dans les réunions, si un jeune en particulier donne le peu qu'il a reçu, ça va être quelque chose qui va vraiment encourager ceux qui ont un petit peu avancé. Alors, les amener peut-être à compléter ce que tu as apporté. Voilà, voilà, juste que j'ai l'impression que Timothée était quelqu'un de découragé, parce que Paul lui dit, c'est le verset avant de 2 Timothée 1, verset 6, « Je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. » Ranimer, c'est, dans l'original, c'est réenflammer. C'est comme quand on souffle sur un feu, le feu de l'esprit. Alors, ranime, peut-être par des petites choses, peut-être par des petits services, hein. Peut-être par une parole ou 3 paroles selon l'esprit dans une réunion. On n'est pas obligé de se lever pour tenir 45 minutes. Voilà, le service est à tous.
45 minutes, c'est beaucoup trop long. Et la même voix, pendant ce temps-là, même si les choses sont intéressantes, ça fatigue. Ça fatigue et on n'a pas la capacité de mobiliser son attention sur une durée si longue. Bon, ça c'est quelque chose d'utile à retenir aussi. Mais on peut connaître qu'un frère, une sœur a des dispositions que Dieu lui a données. Et par exemple, Timothée avait des dispositions, et on lit à son égard, dans la première épître, au chapitre 4, au verset 14, « Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi ». Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut pousser ce frère, cette sœur, à insister de manière qu'elle dépasse ou qu'il dépasse sa mesure. Mais ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. Voilà, alors, en continuant un peu avec ce chapitre, une remarque quand même qui est utile, parce qu'elle occupe une place importante et c'est utile dans la chrétienté. Nous avons trouvé dans la lecture, dans les indications des dons, le discernement d'esprit, toutes sortes de langues, au verset 10, à la fin de l'énumération. Et puis ensuite, nous trouvons ici, à la fin du chapitre, aussi à la fin de l'énumération, les diverses sortes de langues. Ça termine la phrase du verset 28. Parce que les Corinthiens, eux, avaient tendance à mettre ces choses en avant, parce que ça fait de l'effet, ça paraît. Eh bien, voilà, on écoute ce que Dieu nous dit. Il nous donne un ordre de choses, hein. Il y a ici les apôtres d'abord, voilà, ceux qui viennent pour compléter la parole de Dieu, et auquel le Seigneur Jésus a donné une responsabilité particulière. Ensuite, les prophètes avec le sens du Nouveau Testament, c'est-à-dire que quand un prophète parle, la conscience et le cœur sont touchés, on reçoit quelque chose qui vient de Dieu, et on sent bien que le prophète est là comme un canal, mais la chose vient de Dieu, elle fait du bien, elle s'impose, elle produit quelque chose de positif. Et puis ensuite, il y a les docteurs, alors qui viennent expliquer la parole de Dieu d'une manière plus précise, dans un passage délicat, qui viennent donner un sens, qui s'impose, parce que l'Esprit de Dieu a donné aux docteurs une capacité particulière. Et ensuite seulement, il y a les miracles, les dons de grâce de guérison, et puis les aides ont leur place, donc qui viennent parler, tiennent de ces petites choses utiles, là. Eh bien, une aide, ça a sa place. Par exemple, ici, on arrive à la fin de la réunion de la matinée, hein, on va manger. Bon, eh bien, il y a des sœurs qui ont travaillé, je vous signale, depuis plusieurs jours, hein. Bon, ben, Et quand on regarde justement la multiplication des pains, tiens, les deux multiplications des pains de Marc 6 et 8, bon, ben qu'est-ce que vous trouvez là? Une nourriture pour l'âme, une nourriture pour le corps. Bon, ben il faut ici que quelqu'un se dépense et se dévoue pour ça. Et si on va manger ensemble, si on va partager ensemble, eh bien on va avoir des instants d'échange aussi. Et les sœurs qui ont préparé quelque chose, eh bien, ont apporté par là, et on va s'en rendre compte, une contribution utile, des aides. Il n'y a pas ça, quelque part, il manque quelque chose pour l'utilité et pour le profit de l'ensemble. Donc, on reçoit ces choses-là, elles ont leur place, et puis il y a ceux qui ont des responsabilités pour diriger, organiser les gouvernements. Voilà. Alors, ensuite, on retrouve apôtres, docteurs, encore les apôtres, prophètes, docteurs, miracles, encore cet ordre que Dieu donne. Et puis, on est conduit alors vers le chapitre 13 pour quelque chose qui est la clé de tout. Mais on y viendra cet après-midi.
On a étudié ce chapitre comme le paragraphe de l'esprit de puissance. On a vu que c'est Dieu qui opérait. Élie nous a dit que c'était comme une armée auquel Dieu avait pourvu tout. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche très bien. Or, on n'a jamais vu d'assemblée où ça marche vraiment très très bien. Alors, je crois que l'explication, il me semble, enfin, si vous me direz que je me trompe, le Saint-Esprit agit en nous, mais il agit en fonction de notre qualité. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a été un homme parfait. Et l'Esprit de Dieu a parfaitement agi, Dieu a parfaitement agi et tout ce qu'il a fait était parfait. Nous, c'est toujours partiel. Personne ne peut dire, j'ai complètement la pensée de l'Esprit, ce que je fais est parfait. Et suivant notre qualité, c'est-à-dire la qualité de notre relation avec Dieu, la façon dont on juge ses péchés, la façon dont on, enfin, un ensemble de choses dont on a parlé un peu au début, eh bien l'Esprit agira plus ou moins, et la vie de l'Église sera plus ou moins, elle s'approchera de ce que Dieu veut, Dieu voudrait qu'elle soit parfaite, elle ne le sera jamais, et c'est pour ça qu'on a... Philippe a dit, il ne faut pas se poser la question de comment on fait son service, mais moi je pense que si, c'est fondamental. On a chacun, on est encouragé chacun à comprendre ce que Dieu attend de nous, et puis surtout, comment on le fait. Et là, c'est là qu'on a une marge de progrès, et qui ne sera pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu et pour le bien de ses frères et sœurs.
Juste un tout petit encouragement quand même. Il dit, bon, ben, je ne connais pas d'assemblée où les choses aillent bien, il y a toujours des petites choses, et c'est utile. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, dès le début, nous montre comment fonctionnaient les assemblées, où il y avait beaucoup de choses à mettre en ordre. Alors, un autre regard. Le Seigneur, Dieu qui donne tout pour que les choses aillent bien, il y a tout ce qu'il faut, on a dit. Tu n'as jamais été surpris, Jean, et d'autres sans doute ici, en voyant les tempéraments de certains frères et de certaines sœurs, et les actions qui pouvaient tout de suite être comme des bombes qui dévorent, et le fait que l'Assemblée soit toujours là. Il y a quand même quelque chose là. Hein? Il y a un Dieu vivant qui agit, et si même il y a des démolisseurs, eh bien au-dessus d'eux, fort heureusement, il y a quelqu'un qui est là. Un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Moi, j'ai confiance dans celui-là.
Je voudrais donner un dernier exemple, parce que dans les services dont on a parlé, on a donné un petit mot sur les aides, mais concrètement, il y a des exemples qui nous sont donnés dans la Bible, et il y en a un qu'on pourrait relire ensemble, c'est en Acte 9, à Joppé. Il y avait une femme disciple nommée Tabitha. Elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Et on pourrait s'arrêter là et on pourrait conceptualiser des bonnes œuvres, des aumônes, et puis on parlerait beaucoup de peut-être de services qui sont très en avant. Et puis un peu plus loin, ben, on a l'explication de ce qu'elle faisait. Et c'est au milieu du verset 39. Et toutes les veuves vinrent auprès de lui en pleurant et en montrant les robes et les vêtements et toutes les choses que Dorcas avait faites pendant qu'elle était avec elle. Et je crois que chacun, on a parlé des mains, on a tous des mains pratiquement, on a tous des pieds, Et donc on est capable, eh bien, d'aller aider une sœur âgée qui peut pas aller faire ses courses toute seule, aller aider un frère âgé à tailler ses arbres ou arranger quelque chose dans son jardin. Et je crois que ça fait partie de ces aides qui vont faire que chacun va être déchargé peut-être de soucis qui pourraient l'écraser et nuire à la qualité de sa relation avec le Seigneur et à la qualité de la vie que nous pouvons avoir en commun. Et voilà, c'est des choses très concrètes. C'est pas forcément tenir un micro dans une réunion et expliquer des choses, mais c'est aussi ben, des fonctionnements très simples. Et Dieu nous les donne aussi en exemple. Et ça peut être plus facile de trouver son service, le service que chacun a pour remplir, pour l'utilité.
Je propose qu'on prie ensemble en chantant une strophe de cantique, la strophe 3 du cantique 131, et on peut être debout, et on peut finir ces moments ce matin comme ça.
Thank you.